Votre invité à présent, Patricia Martin, l'académicienne Danielle Salnave, auteur de « La teuf et le virus », publié aux éditions Gallimard dans la collection « Tracts de crise ».
Bonjour Danielle Salnave.
Bonjour.
Première question déjà, est-ce que « teuf » fait partie du dictionnaire ? C'est dans le dictionnaire ou pas ?
Eh bien, pour l'instant, on arrive à la lettre T, donc je pourrais vous le dire dans quelques mois.
Bon, à mon avis, en tout cas, vous allez pousser l'idée. Bon.
Mais alors, je souhaite en tout cas qu'au mot fête, quand on reverra entièrement les mots, au mot fête, on puisse ajouter toutes les façons de décliner ce mot, y compris teuf.
Alors, vous le déclinez dans ce texte, effectivement, que vous venez de publier. On peut l'envisager de plusieurs manières, la teuf. Ça peut être une forme de résistance. On se souvient des attentats de novembre 2015 et ça a été une façon de tenir bon. En ce moment, bon, on ne peut plus la faire, ni chez soi, ni en invitant des amis et encore moins au café ou au restaurant. Est-ce que c'est quelque chose de transgressif pour vous, la teuf ?
Je suis un peu embarrassée devant cette question parce que, bien évidemment, ces moments qui sont ceux, au fond, d'une espèce de dérèglement choisi où on oublie, il n'y a plus d'heure, il n'y a plus ni nuit ni jour, où les substances, au moins l'alcool, coulent, disons, assez déraisonnablement, c'est indispensable. On en a besoin depuis l'origine de l'humanité. Les fêtes ont scandé la vie sociale, la vie tout court. Résumer notre mode de vie à la fête, surtout à ces formes qui sont quand même, au fond, pas si transgressif que ça, me paraît un peu court. Voilà pourquoi j'avais été un peu, j'étais un peu stimulée à prendre une position qui a pu paraître négative en disant peut-être notre mode de vie, ça couvre bien d'autres choses. C'est ce que nous devons défendre. C'est bien plus vaste que le droit de se rassembler sur des terrasses à boire des coups. Voilà. Je pense que c'était une version, au fond, c'est la version d'aujourd'hui de la fête qui est une version contrôlée. Elle fait partie de notre monde où nous pensons, où certains pensent, que nous avons toutes les chances, tous les bonheurs, alors qu'en réalité le reste du monde est plongé dans des obscurités croissantes. Et je pense que réduire notre mode de vie à nos nuits sans fin sur les terrasses est un peu court. Je crois qu'il faut penser plus largement.
C'est ce qu'ont voulu nous faire croire, en tout cas, les tueurs du Bataclan, quand ils disaient que la teuf était en quelque sorte emblématique de notre société de consommation. C'est ce qu'ils ont voulu nous faire croire, et c'est un peu court, selon vous.
C'est ce que je crois, c'est un peu court. Ce qui déplaisait, bien évidemment, à ces monstres criminels, c'est l'idée de la promiscuité des sexes, que l'alcool coule, etc., bien évidemment. Cela dit, ils ont bien d'autres choses à nous reprocher que simplement notre sens de la fête. Et nous réduire au sens de la fête, c'est nous réduire tout court. Je pense que si nous avons quelque chose à défendre, alors c'est beaucoup plus vaste. Ce que nous devons défendre, c'est en réalité, nous devons défendre l'absolue nécessité à combattre toutes les formes de l'inégalité. Ce qui est grave dans notre société, ce sont les inégalités. Et elles explosent à travers la crise d'aujourd'hui. C'est pourquoi cette crise est un événement sans pareil et qui, j'espère, aura de grandes conséquences. Il fait exploser notre consentement acquis, peut-être encouragé, peut-être nous a-t-on endormi, notre consentement à l'inégalité. Et c'est une chose à laquelle je ne peux me résoudre.
Oui, ce sont ces inégalités qui font que les plus chanceux, par exemple, ont pu rejoindre une résidence secondaire pendant que d'autres se retrouvent confinés dans des petits appartements, c'est ça ?
Je ne cherche à incriminer personne. Je pense que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, les victimes et les complices d'un système. Mais je crois qu'il faut en prendre conscience. Je ne veux pas incriminer, dénoncer ceux qui sont partis. Je ne l'ai pas fait, je ne souhaitais pas quitter Paris. Mais bon, si on l'a fait, je ne cherche pas à faire une liste de coupables. Mais vous voyez bien ce qui ressort. Et depuis quelques années, qu'est-ce qu'on a vu ? Au moment où les cheminots manifestent pour maintenir leur statut, on crie, ils défendent leurs avantages acquis. Comme si, par exemple, les gens du CAC 40 ne défendaient pas leurs avantages acquis, eux aussi. Ça, c'est une première question. La deuxième, au moment de la crise des Gilets jaunes, sur les Gilets jaunes, Dieu sait ce qu'on a dit, et plutôt négatif que positif. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Bien sûr, il y a les médecins, les chefs de service qui n'appartiennent pas au monde des Gilets jaunes. Mais tout de même, les aides-soignants, les infirmiers, les ambulanciers, sans parler des livreurs qui traversent tout Paris sur des vélos ou dans des camions pour nous apporter l'essentiel, ce sont les Gilets jaunes. Qui fait marcher la machine ? Les Gilets jaunes. Ce ne sont pas les membres du CAC 40 qui font marcher la machine pour l'instant. Ce sont les Gilets jaunes. Eh bien, je pense que c'est une réponse extraordinaire à cette revendication de reconnaissance que les Gilets jaunes ont émise il y a 2 ans.
Daniel Salnav, il y a 1 an, la cathédrale Notre-Dame de Paris brûlait de façon spectaculaire et il y a eu une solidarité spontanée, une cagnotte en ligne. Des personnalités se sont à ce moment-là, ont donné de l'argent. Il y a eu 900 millions des personnalités ou d'ailleurs le tout un chacun. 900 millions d'euros ont été collectés par des fondations et des organismes. Est-ce que vous pensez que la situation actuelle pourrait engendrer le même genre de solidarité ?
Oui, je pense qu'elle aurait dû. Je pense qu'elle aurait dû. Je ne veux pas de commentaires interminables. Bon, c'est très bien. Les très grosses fortunes ont donné des très grosses sommes. Ceux qui voulaient donner 10 euros, très bien, c'est bien. Nous défendons quelque chose qui est notre bien commun, qui est ce fleuron de notre patrimoine. Je n'ai rien à redire. J'aurais voulu que dans les débuts, lorsque les soignants, je pense beaucoup à eux, bien sûr, on me dit, oh, ça devient ridicule tous les soirs d'être au balcon. Je ne le crois pas. Moi, je suis prête à les saluer et à les applaudir tous les soirs. Mais je pense aussi qu'on aurait pu, par exemple, imaginer très vite des endroits où ils auraient pu venir se reposer, ne pas être obligés de rentrer à l'autre bout de Paris ou hors de Paris où ils habitent. Par exemple, les grosses fortunes auraient pu, je ne sais pas moi, louer de grands hôtels qui se trouvaient vides, faute de touristes, dans le 15e arrondissement, près de l'hôpital Pompidou, pour que les soignants, dans la journée, puissent aller se reposer, prendre une douche, dormir, ou peut-être même y dormir le soir après une journée terriblement chargée. J'ai été très déçue, enfin déçue, peut-être pas. Je ne voulais pas confirmer une vision un peu négative que j'avais de la solidarité, mais je pense que là, elle aurait pu se manifester. J'ai été étonnée qu'elle ne se manifeste pas.
Sans compter toutes les questions financières, du chômage partiel qui explose, des inscriptions en Pôle emploi qui font des bons, certains vont probablement devoir mettre la clé sous la porte, hein. On n'entend que ça en ce moment. Alors il y a un soutien du gouvernement, mais il peut être qu'insuffisant.
Alors, et je crois que pour l'instant, l'opposition privée-publique, qui déjà était dépassée au niveau de la santé, puisque les cliniques privées concluent des accords avec les HP, avec les hôpitaux publics, mais je crois qu'en effet, il faut qu'on sorte de l'opposition État-privé. Il faut qu'on accueille, qu'on encourage et qu'on construise toutes sortes de structures pour aider, par exemple, les familles qui, dans les quartiers du nord de Paris, tout autour et autour des grandes villes sont peuplés de familles qui arrivent très difficilement à rejoindre la fin d'un mois de confinement. Il n'y a plus de cantine pour les enfants, donc un repas convenable et même très bon tous les jours ne leur est plus offert, souvent des familles qui ont déjà payé la cantine. Il faut absolument mettre en place toutes ces structures. On a pris à l'école les enfants des soignants, c'est très bien. Pourquoi ne pas créer l'équivalent des cantines sous forme de distribution de repas. Il est tout à fait anormal que des enfants soient obligés de manger uniquement des pâtes aux gruyères parce que les parents ne peuvent plus les nourrir convenablement. Là aussi, pour tout ce qui concerne l'enseignement, pendant l'été, le ministre a suggéré qu'on fasse une continuité pédagogique pour qu'il n'ait pas tout perdu. Comment va-t-on faire pour les enfants qui ne disposent pas d'équipement informatique ou qui sont dans des appartements trop chargés en enfants et trop petits en espace pour qu'ils puissent travailler ? Il faut concevoir des choses. Eh bien, demandons à ceux qui sont prêts à aider, non pas sous la forme charitable de « je donne 2 euros et ma conscience est calmée », non, construire vraiment des circuits pour apporter l'aide là où elle est demandée.
Merci.
Et elle est dans
Merci
de très Daniel nombreux Sanab. Endroits.
On vous laisse écrire la suite de l'Églantine et le Muguet, parce que je crois que c'est ce à quoi vous êtes attelé.
Absolument,
et il y a donc
merci
la teuf. La teuf et le virus aux éditions Gallimard dans la collection Tracts de Christ. C'est un texte libre d'accès. Merci à vous.
Merci.
À bientôt. Merci à vous.